Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi, kobena.
It's okay, you know, it's okay.
Cette humeur funk échappée des 70s provient du cœur de la communauté noire américaine. Il y a 40 ans, un groupe fraîchement signé sur le célèbre label Motown faisait paraître son premier album, Machine Gun, dans lequel se révélait le talent des Commodores, emmené par un inconnu notoire qui deviendra une star. Je parle de Lionel Richie. Depuis cette époque, l'eau a coulé sous les ponts. Lionel Richie a entrepris une brillante carrière solo, mais les Commodores ont poursuivi l'aventure musicale de leur côté. Ce groupe légendaire était en concert le 30 juin dernier au Festival Jazz à Vienne dans le sud de la France où nous nous trouvons. Et nous avons pu rencontrer Walter Orange, William King et J.D. Nicholas, piliers historiques des Commodores. Breakhouse, les Commodores en 1977, l'un des classiques de Motown qui nous donne l'occasion de converser quelques instants avec Walter Orange, William King, J.D. Nicholas, membre éminent et historique des Commodores. Merci d'être avec nous.
Oh, it's really up to happen. Yeah.
2014 marque le 40e anniversaire des Commodores puisque le premier album est sorti en 1974. Comment vivez-vous cette étape majeure pour un groupe?
Oh, how do we feel? I think we feel pretty good about it. I mean, we've been together 47 years.
On en est plutôt heureux. Cela fait précisément 47 ans que nous sommes ensemble. 47 ans de vrai bonheur. Ce qui nous a toujours porté, c'est la musique. Il y a eu des changements de personnel dans le groupe, mais la musique des Commodores a résisté.
In the group, but you know the bottom line is that the music lives on, and every night we play those songs three times. The Lady Steel.
Chaque soir, nous jouons avec plaisir les grands standards. Three times the Lady, Steel, Easy, Close to You, Night Shift, et je pourrais continuer encore longtemps à vous citer ces classiques. Quelle chance pour nous et pour vous, c'est incroyable.
So it's been incredible.
Beaucoup de vos fans connaissent les tubes Easy, Three Times a Lady, Night Shift. Est-ce que vous ne regrettez pas que l'on oublie parfois certaines autres compositions comme Breakhouse, Fancy Dancer ou Slippery When Wet?
Well, they're forgetting our songs.
That's a shame.
They are not forgetting our songs.
They can't be forgetting.
They cannot be JD, you think they're forgetting our songs?
No, I don't think that they I don't think that they forget the songs.
Je ne pense pas que le public oublie nos vieux tubes. Je dirais que des titres plus récents comme Three Times a Lady, Easy ou Steel ont fait de l'ombre à notre patrimoine d'autrefois. C'est la raison pour laquelle Fancy Dancer n'est plus dans les esprits. Nos fans nous réclament aujourd'hui des chansons plus populaires, mais toutes nos compositions ont de la valeur à nos yeux. Il fallait seulement que nous avancions, que nous évoluions, que nous soyons en phase avec notre époque et surtout répondre aux attentes du public. Fancy Dancer et quelques autres chansons des années 70 ont progressivement disparu de notre répertoire, mais nous en sommes toujours fiers.
Est-ce que vous êtes nostalgique de la musique de cette époque, de l'humeur sonore des années 70?
Oui, nous sommes nostalgiques comme tout le monde. Nous pourrions nous contenter d'écouter les disques de cette époque. Mais comme les belles mélodies d'antan nous manquent, nous les jouons sur scène. La musique d'autrefois avait une puissance expressive étonnante. Le son des guitares, le jeu des batteurs, la richesse des cuivres. Et les groupes comme Blood, Sweat and Tears faisaient un tabac dans les années 70. Tout cela a disparu aujourd'hui. Donc oui, nous sommes nostalgiques, mais la vie continue et il faut aller de l'avant.
Vous êtes un groupe originaire d'Alabama, dans le sud des États-Unis. Je me suis toujours demandé pourquoi vous aviez signé chez Motown plutôt que Stax Records, un label sudiste.
Oh non, nous ne cherchions pas à signer chez Stax. Stax était un bon label, mais les dieux de la musique en ont décidé autrement. En fait, l'histoire est assez simple. Nous tournions aux États-Unis en compagnie des Jackson 5. Michael devait avoir 9 ou 10 ans à l'époque. Nous avons assuré la première partie de leur spectacle pendant au moins 2 ans. Nous proposions un show très similaire à celui des Jackson 5. Nous chantions, nous dansions, mais nous avions notre propre style. À l'issue de cette longue tournée, Berry Gordy, le patron de la Motown, a commencé à s'intéresser à nous et nous a proposé de signer un contrat. Mais cela a pris du temps. Ils ne savaient pas trop comment nous présenter au public américain. Nous avions nos propres compositions, notre propre section de cuivre, alors que Motown faisait habituellement appel à des musiciens de studio, des orchestres entiers avec des violons, enfin ce genre de choses. Heureusement, nous avons fini par trouver un compromis. Nous sommes fiers d'avoir signé chez Motown, un label qui a une histoire et un patron, Berry Gordy, qui a une vision artistique. Il nous a permis de toucher tous les publics, et c'est toujours le cas aujourd'hui.
Vous venez de mentionner Michael Jackson et les Jackson 5. En cette année 2014, nous commémorons deux artistes exceptionnels. Michael Jackson disparu il y a 5 ans et Marvin Gaye disparu il y a 30 ans. Parlons un petit peu de Marvin Gaye. Vous lui aviez dédié Night Shift. Qui a eu l'idée?
The idea of Night Shift. This is 1983. In 1984, he passed away. The song came out in 1984.
L'histoire de Night Shift remonte à 1983-84. Le titre a été commercialisé en 1984 parce que nous aimions la musique de Marvin Gaye. De plus, il était pour nous une icône de la soul music. Beaucoup d'artistes ont été élevés au rang de légendes, les Temptations, les Four Tops. Mais Marvin Gaye était une vraie personnalité universelle. Un soir, il nous a invités dans son studio à Los Angeles et nous avons appris à le connaître au fil des jours. Son décès fut un choc pour nous et pour le monde entier. N'oublions jamais que sa mort fut causée par son propre père qui l'a assassiné. Cet événement a fait germer l'idée d'un hommage pour l'album que nous préparions alors. Lionel Richie venait de quitter le groupe et je cherchais des mélodies fortes pour compenser son départ. Et je me suis dit, pourquoi ne pas rendre hommage à Marvin Gaye? Lorsque j'ai fait écouter ce que je venais d'enregistrer à Dennis Lambert, le producteur, honnêtement, je n'y croyais pas du tout. Je pensais que cette composition n'aurait aucun succès. Je voulais juste saluer la mémoire de Marvin Gaye sans aucune prétention. Et cette chanson n'est pas seulement devenue un tube planétaire, elle fut notre premier Grammy Award. C'est toujours aujourd'hui un standard que le public réclame alors que je n'y croyais pas une seconde.
Si nous écoutions Night Shift.
he could sing a song. His heart in every line. Marvin, Marvin, sang of the joy and pain. He opened up our minds, and I still can hear him say,
Night Shift, les Commodores en 1984, un véritable grand classique, le premier après le départ de Lionel Richie. On dit d'ailleurs que pour célébrer les 40 ans du groupe, vous pourriez tous vous retrouver pour une reformation historique. Est-ce que c'est une rumeur ou une info?
Well, you know, I mean, we really hear this all the time. And the truth is that we're not going to do a tour together.
C'est le genre de rumeur qui revient régulièrement. Et pour être honnête, il n'y aura pas de tournée avec Lionel Richie. Il est le seul de l'équipe à avoir toujours refusé de participer à une reformation des Commodores. Nous sommes tous d'accord, sauf lui. Il dit souvent « j'aimerais bien », mais il y a toujours un « mais » dans ses déclarations. Chaque fois que nous avons tenté quelque chose, il disparaissait dans la nature.
Depuis toutes ces années de tournée à travers le monde, cette question revient constamment. Est-ce que Lionel Richie retrouvera un jour les Commodores? Mais malheureusement, peut-être par égoïsme, il a toujours décliné nos propositions. C'est étonnant car nous nous entendons parfaitement. Si Lionel Richie arrivait au beau milieu de cette interview, il serait ni plus ni moins un membre officiel des Commodores. Nous nous sommes tellement marrés ensemble. Mais que voulez-vous? Il arrive un moment dans votre vie où vous sentez que vous devez évoluer. Et c'est sûrement ce qu'a voulu Lionel Richie. Nous lui souhaitons du succès et nous continuerons notre route de notre côté.
And we keep going our way.
You know, none of those rumors.
Nous ne sommes pas les auteurs de ces rumeurs. Cela revient toujours lorsqu'il est sur le point de sortir un nouvel album. Étonnant, non?
Depuis quelques mois, on sent un regain d'intérêt du public pour le funk des origines, Cool and the Gang, Imagination, les Jacksons, vous, les Commodores. Vous êtes encensés et attendus sur scène. Comment vous expliquez cela? Est-ce qu'il nous manque un son authentique aujourd'hui?
You know, the kids today, the younger generation today who are coming up in the music or trying to come up in the music business.
Je pense qu'il y a des gamins aujourd'hui qui ressentent comme une overdose de sonorité préfabriquée par les nouvelles technologies. Et ils se passionnent désormais pour le son authentique de groupes historiques comme les Commodores, Cool and the Gang, le son des années 70. Ils réalisent que pour reproduire ce son d'époque, la technologie ne suffit plus. Il faut réellement se mettre au piano ou sur une guitare pour retrouver la saveur sonore d'autrefois. Il faut que cela vienne du cœur pour que vos doigts pianotent avec goût sur un clavier, pour que votre voix ait une âme au micro. Aujourd'hui, c'est l'auto-tuning qui corrige votre voix. Quelle tristesse.
And you can't do that in a machine. You can't get an audio. You can't get a visual performance.
Je pense donc que la jeune génération recherche des musiciens capables de les épater en jouant réellement leur musique sur scène. Une machine, un CD, un ordinateur ne remplaceront jamais une prestation en public. Quand nous jouons Brick House sur scène, c'est de la vraie chorégraphie répétée en studio, à l'ancienne. C'est l'essence même de notre travail.
Une dernière question. Vous avez appris, comme nous, la semaine dernière, la disparition de Bobby Womack. Le connaissiez-vous et que représentait-il dans l'histoire de la soul music?
Well, I met Bobby Womack. It's been many, many, many years ago.
J'ai rencontré Bobby Womack il y a quelques années. Il était très enthousiaste et soutenait les Commodores. C'était il y a 20 ou 25 ans, peut-être plus. Nous jouions dans un club à Los Angeles et j'ai toujours eu du respect pour cet artiste parce qu'à l'époque, il nous a encouragés. Nous avions du mal à nous faire connaître, nous étions des musiciens de studio et même si nous croyions en notre bonne étoile, notre carrière ne décollait pas. Nous n'avions pas encore sorti les tubes que vous connaissez. Mais il nous a conseillés et indirectement nous a inspirés. Il nous disait que nous avions un son, une identité propre, alors qu'il ne nous avait entendus qu'une fois dans ce club de Los Angeles. Il nous a complimentés. Ça faisait chaud au cœur. Bobby Womack, comme beaucoup d'artistes de cette époque, n'avait pas besoin d'ordinateur pour masquer ses imperfections. Il était juste exceptionnel. Il m'avait demandé, vous avez étudié la musique pour être aussi bon ? Bref, il nous manquera. On ne cesse de parler de lui depuis l'annonce de sa disparition et à coup sûr, de nombreux messages fraternels m'attendront à mon retour aux États-Unis, car Bobby Womack était un ami.
Of people that was right there with us at that time that knew I knew Bobby Womack.
Quoi qu'il en soit, ce fut un bonheur de converser avec vous aujourd'hui et je vous remercie de votre disponibilité.
Thank you.
Pleasure. Thanks for having us.
Yes, sir.
You're very welcome. Thank you.
Thank you.
No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and I bought her. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? Yeah. I'm paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning.
L'un des grands classiques des Commodores en 1977, qui referme ainsi la première partie de cette épopée spéciale funk depuis le festival Jazz à Vienne dans le sud de la France où nous nous trouvons cette semaine. Dans quelques minutes, c'est un autre groupe légendaire que nous allons retrouver. Je parle de Cool and the Gang, représenté par son leader originel, le bassiste Robert Cool Bell. C'est juste après le rappel de l'actualité. À tout de suite.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer.
It don't mean a thing.
Nathalie Laporte.
If it ain't got that swing.
Jigida, kani jigi misenya, omani kobena.
L'épopée des musiques noires.
It's okay, you know, It's okay.
Ah, oh, merci.
Nous sommes à Vienne cette semaine dans l'épopée des musiques noires à l'occasion d'un événement qui s'est déroulé ici le 30 juin dernier, le retour sur scène de deux groupes majeurs dans l'histoire du funk, les Commodores et Cool and the Gang. Nous avons eu in extremis le plaisir de converser avec Robert Cool Bell, l'un des membres éminents de Cool and the Gang, dont vous connaissez forcément ce standard ultime. Tonight, l'un des classiques de Cool and the Gang en 1984, à une époque où ce groupe connaissait un succès sans précédent à l'échelle planétaire. En 2014, l'aventure continue et nous sommes enchantés d'accueillir aujourd'hui Robert Cool Bell, l'un des héros de cette épopée funk internationale. Soyez le bienvenu. Welcome.
It's good to be here, as always. We love coming to France.
Si l'on considère que le groupe est né en 1964 sous le nom des Jazz Yaks, cela veut dire que vous fêtez cette année votre cinquantenaire.
50 years of Cool and the Gang, yes.
50 ans de Cool and the Gang, c'est incroyable. Je réalise à peine que je fais ce métier depuis un demi-siècle, mais ce fut une belle aventure. Et j'espère qu'on va continuer. Jazz Yaks voulait dire les Jazz Maniacs. Est-ce que vous étiez un groupe de jazz au départ?
Well, kind of sort of. You know, we started very young at 14 years old, and we used to listen to a lot of jazz. My brother used to listen to John Coltrane.
En quelque sorte, oui. Nous avons commencé à jouer de la musique à l'âge de 14 ans. Mon frère écoutait John Coltrane. Moi, j'étais fan du bassiste Ron Carter. Notre guitariste adorait Wes Montgomery. Le batteur ne jurait que par Philly Joe Jones. Et je n'oublierai jamais le regretté Horace Silver. Donc oui, nous avons commencé en tant que musiciens de jazz. Puis nous avons commencé à travailler avec une compagnie appelée Soul Town.
And we became the Soul Town Band. In that organization, there was groups who were singing songs.
Nous sommes donc devenus le Soul Town Band. Nous accompagnions à l'époque des chanteurs de Motown, les Temptations, Diana Ross, Stevie Wonder. Il fallait donc que nous apprenions à jouer ce type de musique. C'est ainsi que notre jazz des origines a rencontré la soul et que nous avons changé de nom. On se faisait appeler Cool and the Flames, mais on ne pouvait garder ce nom car James Brown avait formé les Famous Flames. Nous avons donc opté pour Cool and the Gang et notre premier album est sorti en 1969. Vous êtes en tout cas de formidables musiciens qui ont prouvé leur valeur dans le funk au cœur des années 70. Quand on écoute d'ailleurs la musique de cette époque, on constate votre exigence et votre maîtrise. Est-ce que le public a conscience de la difficulté d'interpréter du vrai funk, selon vous?
Well, I would say some of them do and some of them don't, you know.
Je dirais que certains en ont conscience, d'autres pas. Les années 70 ont en effet représenté une période très enthousiasmante pour les amateurs de funk. N'oubliez pas que notre premier album est sorti le 3 juillet 1969, il y a 45 ans. Cela veut dire que durant les années 70, nous étions des pionniers dans ce genre musical. Jungle Boogie.
Jungle Boogie, Hollywood Swingin', you know.
Nous avons composé des classiques comme Funky Stuff, Jungle Boogie, Hollywood Swinging. Nous avions donc de vrais fans qui sont devenus des connaisseurs. On les appelle les gangheads, en d'autres mots, les mordus. Il est vrai que le funk peut paraître simple, mais c'est une musique exigeante qui demande de la concentration. La section basse-batterie doit être impeccable afin de permettre au cuivre d'improviser allègrement. Mais pour répondre à votre question, certains fans sont conscients de tout cela et d'autres se laissent porter par la musique.
But yeah, I mean, some people do, some people don't.
Vous avez traversé les décennies avec une musique toujours positive et enjouée. Est-ce que le funk est un genre musical détaché de la réalité, du temps qui passe?
Well, we always try to keep our music, you know, positive in terms of.
Il est vrai que nous essayons de rester positifs, mais en passant des messages à travers les titres de nos chansons, nous appelons respect et à la considération. Le jazz, le funk et la pop que nous jouons aujourd'hui véhiculent ces messages. Mais c'est lorsque nous avons fait appel à un chanteur, J.T. Taylor, que le discours s'est affirmé. Dans les années 80, Cool and the Gang était plus pop, moins enraciné dans l'âme noire, dans le funk originel. Pourquoi, selon vous ?
What was happening in the States? We were out on tour.
Voilà ce qui s'est passé. Nous étions en tournée aux États-Unis avec les Jackson 5. Le producteur de leur spectacle est venu nous voir un soir et nous a dit : vos prestations sont super, mais il vous faudrait un chanteur.
You should get a lead singer. So we didn't really think about that.
Nous y avons réfléchi, d'autant que les années 80 approchaient, nous étions en 78-79, et nous devions impérativement nous renouveler. Les Commodores avaient un chanteur en la personne de Lionel Richie, Earth, Wind & Fire avait Philip Bailey et Maurice White. Nous leur avons donc emboîté le pas et nous avons fait appel à un chanteur. Vous a-t-on reproché de vous écarter du son originel du groupe à l'époque ? Oui, c'est arrivé, mais nous avons toujours essayé de conserver notre identité originelle. Notre producteur de l'époque, Eumir Deodato, nous paraissait être l'homme idéal pour conserver cette identité funk des origines. Mais ce fut tout le contraire. Il nous a dit, vous avez un chanteur désormais dans le groupe. Il faut lui créer un univers sonore dans lequel il peut évoluer. Nous avons donc adapté notre tonalité à cette contrainte de taille, tout en maintenant le funk des débuts à travers les cuivres. Certes, nous n'étions plus aussi jazz-funk qu'à l'origine, mais les cuivres sauvaient l'affaire. Donc oui, nous avons été critiqués pour cette volte-face pop-funk. Quoi qu'il en soit, pour permettre à nos auditeurs de comparer les différentes époques de Cool and the Gang, voici Jungle Boogie 1973. Jungle Boogie, Cool on the Gong, en 1973. Quel regard portez-vous sur ces vieux enregistrements aujourd'hui? Je réalise que ce que nous produisions dans les années 70 avait une puissance et une force expressive étonnante pour l'époque. Je retrouve d'ailleurs cette même énergie quand nous jouons ces titres-là sur scène, car nous consacrons 20 minutes du spectacle à ce vieux répertoire. Et je constate que le public réagit autant sur les titres anciens que sur les tubes des années 80. Quand les spectateurs entendent Jungle Boogie, Hollywood Swinging ou Funky Stuff, ils ressentent ce son massif échappé des 70s. Vous faites désormais partie des groupes historiques de l'épopée du funk. Est-ce que cela vous impose une responsabilité plus grande de perpétuer cette tradition musicale? Oui, je pense. Même si Cool on the Gang a évolué depuis les Jazz Yaks en 1964, puis le Soul Town Band et Cool on the Flame, nous avons accumulé une somme d'influences musicales qui nous impose la responsabilité de perpétuer un son authentique. C'est le son de Cherish, Ladies Night, Fresh, Get Down On It, Celebration, mais aussi celui de Funky Stuff, Hollywood Swinging, ou le versant rock de Mislaid ou Tonight. Tout cela représente Cool on the Gang. La boucle est bouclée aujourd'hui. Est-ce que votre rôle n'est pas désormais d'insuffler une envie à la jeune génération? On peut dire ça, ne serait-ce que par l'exploitation outrancière du sampling ou du bidouillage électronique en studio, nous avons un rôle pédagogique à jouer. Pour être musicien, il faut savoir tenir un instrument et être constant. Nous avons travaillé dur pour être célébrés aujourd'hui. Nous avons joué dans des petits clubs avant d'être connus. Nous avons quadrillé les États-Unis à bord d'un bus dans le passé. Nous avons fait nos classes, mais cela a formé notre caractère et façonné notre expérience. Nous n'avons pas besoin de gadgets électroniques sur scène aujourd'hui pour donner de brillants concerts. Les chanteurs ne sont pas en playback chez nous. Il n'y a pas de trucage durant nos prestations. Quand on s'appelle Cool on the Gang, est-ce qu'on ne se laisse pas rattraper par la routine? Oui et non, parce que nous donnons des concerts devant des publics qui parfois nous découvrent. Ils sont donc surexcités à l'idée de nous voir sur scène. Cette énergie-là nous booste réellement durant nos performances. De plus, nous avons de jeunes musiciens dans le groupe qui dynamisent la musique que nous jouons et nous permettent de rester jeunes et frais aux yeux des fans. Merci beaucoup de votre temps et tous nos voeux de succès pour les années à venir.
Thank you.
Thank you so much.
Okay.
Straight Ahead, toute la nostalgie des années 80 grâce à Cool and the Gang en concert le 30 juin dernier au Festival Jazz à Vienne, dont Jean-Paul Boutelier a été le chef d'orchestre dès la première année et reste à ce titre la mémoire vive du festival. Bienvenue sur notre antenne.
Bonjour.
Quel regard portez-vous sur l'évolution de ce festival au fil des décennies ?
Eh bien, finalement, les choses se réalisent comme je l'aurais souhaité, parce que quand on prend de l'âge, la seule chose qui soit importante, c'est de préserver les acquis et de pérenniser le futur. Donc j'espère qu'on est arrivé à cette situation et ça me comble d'aise. Moi, je suis toujours présent au festival, mais plus comme spectateur finalement qu'avec les contraintes de l'organisation.
Est-ce que l'ouverture de la programmation à d'autres genres musicaux n'a pas froissé votre sensibilité jazz ?
Non, je pense que de tout temps, il y a eu ces phénomènes d'ouverture. Simplement, c'est vrai qu'il y avait certains principes pendant longtemps. Moi, c'était mon principe personnel, c'est que j'essayais de programmer des musiques qui avaient des origines communes, c'est-à-dire l'implantation de la culture africaine sur non pas seulement le sol américain du Nord, mais aussi les îles de Caraïbes, l'Amérique du Sud et ailleurs. Bon, maintenant ça va un petit peu plus loin, mais personnellement je trouve que c'est très bien de pouvoir faire des passerelles entre le jazz et la musique classique, entre le jazz et d'autres musiques qui sont pas folkloriques, mais qui finalement, comme le jazz, ont besoin pour vivre et se développer d'avoir ces contacts. Alors je crois que c'est un petit peu fini ces batailles d'Hernani qui ont un petit peu fait du mal d'ailleurs au jazz il y a une cinquantaine d'années.
J'imagine que vous avez vécu de grands moments ici depuis 1981. Quelles grandes figures de l'épopée des musiques noires vous ont impressionné et pourquoi ?
Alors effectivement, je vais citer des noms les plus connus, c'est toujours la même chose. C'est vrai que Miles Davis, moi, m'a beaucoup impressionné. Pas seulement pour le personnage et sa musique, mais je crois qu'il avait vraiment quelque chose en tête, Miles. Il avait en tête de redonner à cette musique de jazz, même s'il aimait pas qu'on appelle cette musique jazz, mais lui redonner quand même un éclat qui soit comparable à ce qui se passait dans le rock'n'roll. Et finalement, son action a été très efficace parce que grâce à lui, et quelques autres aussi, mais grâce à lui quand même au départ, certains groupes de jazz sont devenus les équivalents des grands groupes de rock'n'roll anglais et autres. Il a vraiment réussi ce pari sans trop se compromettre. Parce que il n'est jamais allé trop loin. Il faisait toujours en sorte d'avoir des choses créatives. Lui-même, pas toujours, parce que moi je considère qu'il a toujours un petit peu joué la même chose, mais par contre, il savait s'entourer de musiciens, et finalement, il est passé du bop au jazz rock avec une facilité déconcertante.
Et cette année, c'est un rêve, vous recevez l'une des grandes figures de la soul music, Stevie Wonder. Il n'était jamais venu au Festival Jazz à Vienne ?
Non, il n'était jamais venu. C'est difficile, il y a des artistes qui, dans l'histoire de la musique afro-américaine, des artistes ont choisi de jouer souvent et de faire de fréquentes tournées, ce qui permettait d'avoir ces artistes dans beaucoup de lieux, sans être obligé d'avoir des prix de place élevés, etc. Et puis il y en a d'autres qui font le choix d'avoir très très peu de dates. Alors Stevie Wonder fait partie de cela, il y a Prince aussi qui en fait partie. Et alors effectivement, on les voit rarement, et quand on les voit, c'est dans des conditions qui sont pas toujours plaisantes d'ailleurs. Moi je suis assez opposé à ce genre de choses. Je préférais finalement des attitudes comme Ray Charles ou James Brown qui faisaient énormément de concerts, mais ces concerts, on pouvait les ouvrir à énormément de monde sans que chacun puisse mettre son portefeuille à sec.
Alors que Stevie Wonder, c'est complètement
Stevie Wonder, différent. C'est un petit peu difficile parce que effectivement, il vient à Vienne, on ouvre la location par un communiqué, surtout avec Internet maintenant. 40 minutes après, il y avait 8000 places vendues. Et on n'est pas obligé de limiter le prix des places dans ce genre de choses. Mais c'est pas, il n'y a pas qu'à Vienne, hein. Je pense que c'est le même phénomène dans d'autres endroits et aussi avec d'autres groupes ou d'autres artistes. Mais je trouve que c'est pas toujours une attitude très responsable vis-à-vis du public.
Le cadre de ce festival est aussi impressionnant. Parlez-nous de ce théâtre antique où se produisent les plus grands noms.
Alors c'est un théâtre qui est formidable parce que c'est le plus grand théâtre qui soit antique en France. Il avait la taille de celui de Rome, mais celui de Rome n'existe plus. Dans l'Antiquité, c'est un lieu qui pouvait accueillir jusqu'à 15 000 personnes. Et notamment, il a une qualité formidable, c'est le rapport entre la scène et la montée des gradins. C'est-à-dire cet angle pour regarder la scène qui est très important. C'est assez unique. On a la chance à Vienne que des architectes, il y a plus de 2000 ans, aient pu construire, réaliser ce théâtre parce que Bon, ils n'étaient pas faits pour la musique, hein. Ils étaient faits pour d'autres spectacles. Mais on a l'impression qu'ils pensaient déjà au jazz. Puis alors, il y a une autre chose qui est formidable, mais il faut être sur scène pour s'en rendre compte. Quand vous êtes sur scène, vous voyez les 8000 visages. On les distingue. C'est pas forcément impressionnant, d'ailleurs. Je trouve que c'est même rassurant de voir les gens, de voir leurs réactions, que quand on est dans une salle totalement obscure, on ne sait pas ce qui se passe. Alors que là, on voit les têtes, on voit éventuellement comment rectifier le tir pour attirer un petit peu plus l'attention, parce qu'on voit très bien les visages qui sont distraits et qui ne sont plus dans le spectacle.
Quand l'artiste monte sur scène, il a devant lui quand même un mur de spectateurs, parce que le théâtre antique monte très haut. Et vous me disiez jadis que certains artistes ont fait un pas en arrière en entrant sur scène, tant ce lieu est imposant.
Oui, il y en a qui ont fait des pas en arrière, mais il y en a qui ont fait des pas en avant. Puisque vous vous rappelez ce souvenir, c'est Claude Nougaro qui est rentré sur scène et qui a sorti l'expression « un mur d'humanité ». Et je trouve que c'est vraiment le bon choix de mots que de décrire ce spectacle que l'artiste a lorsqu'il rentre sur scène. Alors il y a d'autres artistes, c'est très drôle parce que ça se déroule depuis plus de 30 ans, toujours de la même façon, et cette année encore, qui ont leurs appareils photos et qui prennent des photos du public.
C'est bien la preuve que quand même ce lieu est quand même magique. Depuis 3 ans, vous avez laissé votre place à Stéphane Cochoyan. Est-ce que ce fut difficile de confier son bébé à une nouvelle nounou ?
Non, parce que c'était une décision que j'avais prise mûrement. Moi, c'est pas mon métier, hein, ce festival. J'avais un autre métier. Je crois qu'il faut partir lorsque les choses marchent bien. Il faut partir sans avoir de regrets. On a des nostalgies, mais c'est pas les nostalgies d'avoir laissé. La nostalgie, c'est de plus pouvoir voir certains artistes parce qu'ils sont plus là, etc., ou certaines têtes. Mais si les choses n'évoluent pas, forcément, ça disparaît. Donc, il faut que ça évolue. Alors, l'évolution, il faut pas qu'elle soit faite pour faire quelque chose, si c'est changer les choses simplement pour se faire plaisir ou par souci de mode, ça sert pas grand chose. Mais je crois que l'esprit continue dans ces mêmes perspectives. Il y a toujours les repères avec toute une quantité importante de bénévoles. Et puis, je dirais que l'économie du festival est un peu la même parce que ça repose quand même sur le public.
Et puis, le festival reste de qualité, avec vraiment des artistes de grand talent. Il suffit de regarder la programmation de cette édition 2014. Je pense notamment à la Nuit africaine avec Youssou N'Dour, Bassekou Kouyaté, Fatoumata Diawara, Roberto Fonseca et Taj Mahal.
Oui, des artistes oui, avec justement qui permettent de faire des mariages avec des cultures qui sont très proches bien sûr, mais Taj Mahal qui apporte justement la teinte de blues auquel on fait référence avec lui.
Merci beaucoup Jean-Paul Boutelier et surtout merci de nous avoir toujours aussi bien accueillis et bon festival à vous.
Merci.
Merci. Merci beaucoup. Yeah. Are you ready to celebrate over here tonight? Are you ready to celebrate here tonight?
To last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on.
Celebration.
And let's all celebrate and have a good time.
43 years of Montreal.
We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure?
Come
on. It's a celebration.
Let's celebrate.
Cool and the Gang en concert, toute la nostalgie des années 80 pour clore cette épopée réalisée depuis le festival Jazz à Vienne, où nous retournerons la semaine prochaine pour la nuit africaine en compagnie de Youssou N'Dour, Bassekou Kouyaté et Taj Mahal. D'ici là, le festival Jazz à Vienne se poursuit avec Manu Katché, Richard Bona, Bobby McFerrin, Sangoma Everett, Kenny Garrett, Sergio Mendes, Gregory Porter et le bouquet final, Stevie Wonder. A noter également le Black Summer Festival à Paris avec George Clinton, Betty Lavette, Taj Mahal, Piura Fey, Bunny Wailer, Fred Wesley, Bibi Tanga, l'orchestre Polyrythmo de Cotonou, Cheikh Tidiane Seck. C'est du 14 juillet au 3 août au Cabaret Sauvage à Paris. Enfin, n'oubliez pas le Montre Jazz Festival qui vient de commencer en Suisse avec Buddy Guy, Pharrell Williams, Booker T. Jones, Dr. John, Sharon Jones, Mavis Staples, Keb Mo et Stevie Wonder. C'est jusqu'au 17 juillet. Bref, c'est la saison des festivals. Merci à Bertrand Eclair qui a ressorti la boule à facettes pour cette épopée de Top Funk. Des bises à Nathalie Laporte en régie à Paris. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, le journal.